MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Imo.
Eh bien bonjour les amis, voilà, nous enchaînons les thématiques à travers des débats, des tables rondes avec Envie de Ville, notre partenaire média et Nexity bien évidemment. Je suis toujours accompagné de mon complice éditorialiste qui sait à peu près tout faire dans le monde de l'aménagement du territoire, c'est Jean-Luc Porcedo. Comment ça va Jean-Luc?
Ça va bien depuis tout à l'heure.
Toujours avec nous. Voilà, c'est toujours un plaisir de revoir, c'est vraiment un plaisir d'écouter et de voir ces élus locaux qui se battent au quotidien. On a le plaisir d'accueillir sur le plateau, il était d'ailleurs avec nous ce matin dès 9h. Gilles Averrousse, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, de revenir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le maire de Châteauroux, vous êtes président de Ville-de-France et ancien ministre des Sports. Voilà, ministre pendant quelques temps. C'était un vrai plaisir de vous avoir côtoyé. Merci de revenir pour parler des villes de France. Et, alors, j'aime pas trop le ville. Vous savez, je vous l'ai dit ce matin, le terme ville moyenne dérange un peu. Je parle que voilà, vous êtes maire d'une ville, maire de ville tout court. On n'a pas à dire ni moyenne, ni petite, ni grande. C'est une ville. Voilà. Et nous sommes accompagnés de Samia Sewan. Bonjour Samia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maire adjointe en charge de l'urbanisme à Noisy-le-Sec.
Alors, de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'habitat. Donc, ça recouvre justement tout ce qu'est la construction de la ville.
Et vous êtes vice-président de Est Ensemble.
Vice-présidente à Est Ensemble sur les questions de finances et de RH qui impactent forcément un certain nombre de choix que nous sommes amenés à faire.
Bon, ça promet d'être un bon débat.
Bah écoutez, je vous l'espère parce que c'est ma première hein, quand même.
Bon, mais on va vous mettre à l'aise, hein, n'est-ce pas Gilles hein?
Absolument.
Absolument. Voilà, alors, les maires sont toujours en première ligne face aux crises, bien évidemment, et on le voit bien que la reconversion des territoires, la transformation des territoires est un sujet majeur qui nous touche tous. On veut tous que nos administrés vivent heureux, bien, avec ce rapport toujours entre l'emploi et le logement, d'avoir des mobilités qu'on appelle douces, des mobilités qui ne sont pas subies. On voit bien que les villes se transforment à une vitesse phénoménale et il faut dire que l'innovation, la technologie nous accompagne beaucoup. Pour ce contexte-là, justement, j'aimerais, comme il est d'usage dans notre émission avec Envie de Ville, que Jean-Luc Porcedo nous pose le décor du débat.
Merci Sylvain. Je vais commencer par une espèce de parallèle. On a encore aujourd'hui à peu près 36 000 communes en France. On a 36 000 cas particuliers, on va dire, de territoire. Et donc derrière de territoire, de questions de développement, de questions d'aménagement, de questions d'urbanisme. Un des sujets auxquels les élus sont confrontés, je dirais quasi tous les jours, qu'on soit autour, dans une grande métropole, autour d'une grande métropole, dans des villes moyennes, même si tu disais que tu n'aimais pas cette classification.
Non, c'est le côté moyen, tu sais, qui réduit. Voilà.
Et je crois que ça correspond aussi par rapport à des dotations ou à des seuils.
Oui.
Mais au-delà de ça, quelle que soit la ville où on intervient, nous, je trouve que moi, chez Nexity, j'ai la chance de travailler sur l'ensemble du territoire à travers plusieurs casquettes et plusieurs filiales. À chaque fois, on est sur une problématique spécifique. Dans les problématiques spécifiques, il y a bien sûr le développement du territoire concerné, de la commune concernée, mais aussi le territoire, le développement du territoire de l'agglomération, de la communauté de communes parfois, ou de la grande métropole concernée. Parmi ces sujets, on peut les lister, qui font l'attractivité, tu pourrais résumer ça sur, on va dire, un intitulé de marketing territorial, même si le mot est parfois un peu nous éloigne de la question à la fois des élus et en même temps des hommes et des femmes qui habitent dans ces territoires. Parmi les sujets pour construire cette attractivité, on peut avoir tout un tas de choses. Il y a parfois le tourisme, alors sur des zones côtières comme sur des zones de montagne. Il peut y avoir les questions environnementales, la qualité de vie. On avait ce matin des élus qui nous racontaient comment leur territoire était vert et accueillant pour ces sujets. Il peut y avoir les infrastructures de transport qui sont déterminantes pour l'attractivité. Et puis on a très souvent la question de ce qu'on appelle, on aime ça en France, les ZAE, les zones d'activité économique. Pourquoi c'est important? D'abord parce qu'il y a quelques années, ce sujet-là des zones d'activité n'était pas quelque chose qu'on mettait en avant ou trop en avant sur les territoires, aussi bien parfois les élus que, on va dire, les acteurs du marketing territorial. Aujourd'hui, je le vois moi, puisqu'il se trouve que avec Nexity, je gère un certain nombre de zones d'activité économique dans des endroits qui ne sont pas des endroits de grandes métropoles. On raconte et on met en avant ces zones d'activité comme un vrai levier d'attractivité pour le territoire. Et comment on le raconte? Pas simplement, c'est ça je crois que cette évolution qui est importante quand on a au pilotage des territoires qui ne sont pas les grandes métropoles d'Île-de-France, de Lyon, ou de Bordeaux, Marseille, Lille ou autre, ou Nantes, on parlait de Nantes tout à l'heure. Comment on le raconte sur des zones d'activité qui ont des ambitions qui dépassent le caractère économique? Et ça, je crois que c'est un sujet nouveau, important, et qui met autrement en valeur ces questions de zones d'activité pour faire venir des clients, bien sûr, des investes, des utilisateurs. Et on le met en avant, par exemple, avec les exigences de biodiversité. Aujourd'hui, on a des zones d'activité qui sont labellisées biodiversité. On le met en avant sur la manière dont on met en avant les questions d'énergie avec le développement du solaire lié à des zones d'activité. On met en avant ces zones d'activité avec la question des services proposés. Ça aussi, je crois que c'est fondamentalement important aujourd'hui, à la fois pour les services, pour les salariés, mais aussi parce qu'à travers les services, ça rapproche la zone d'activité de la zone d'habitat. Et je crois que le sujet de cet après-midi sur l'attractivité via les zones d'activité économique, c'est un des sujets qu'on a vu émerger dans la mutation de l'attractivité des territoires.
C'est extrêmement clair. Tu as un don, Jean-Luc, de poser un décor qui nous permette vraiment l'échange et le débat. Une réaction, Gilles Avirous.
Je rajouterais à ce que vient de dire Jean-Luc qu'aujourd'hui, l'aménagement de zones d'activité économique nouvelle génération, j'allais dire, c'est une demande de nos entreprises. C'est une demande parce que pour elles, c'est un atout commercial au sens de leur attractivité interne et dans la volonté de les aider à recruter. Vous savez, aujourd'hui, les entreprises, quand elles cherchent de la main-d'œuvre, il faut séduire désormais le jeune, si on veut prendre cette catégorie d'âge, pour leur donner envie de venir travailler chez vous. C'est ça aujourd'hui la réalité. C'est que c'est fini l'époque où les gens venaient vous demander du travail. C'est à vous d'aller chercher quelqu'un pour venir travailler chez vous. Et donc dans les arguments qui fonctionnent et dans ce qui touche notamment la nouvelle génération, c'est la responsabilité sociale des entreprises, bien évidemment. Je veux dire aussi leur responsabilité territoriale. C'est Jean-Pierre Farandou qui utilise ce mot en disant l'impact de l'entreprise dans son environnement. Et nous, à Châteauroux, on a fait le choix d'aménager une nouvelle zone d'activité qui est sur 500 hectares. Hein. C'est une grosse zone d'activité, 330 commercialisables quand vous avez enlevé les emprises de voirie, les bassins de rétention, tout ça. Et on a fait le choix de la labelliser haute qualité environnementale pour en faire un argument pour l'entreprise aussi. Parce que l'entreprise, elle peut désormais se prévaloir d'avoir une responsabilité sociale à l'intérieur dans son fonctionnement, mais également d'être installée sur une zone haute qualité environnementale qui prend en compte les considérations de mobilité, comment on vient, avec quels moyens de transport, comment on stationne même sa trottinette, comment on va déjeuner sur la zone sans avoir à faire 50 km pour trouver un restaurant. Une mixité des usages aussi. On essaye de rentabiliser, j'allais dire, de réfléchir et de rentabiliser tous les équipements qu'on réalise sur cette zone pour que ce ne soit pas qu'une vie pendant 3 heures dans la journée. Et là, ça en fait un vrai argument commercial, j'allais dire, ou de recrutement pour nos entreprises. Et je crois que c'est ça la nouvelle génération des zones d'activité, c'est de se dire on est là à la fois pour aider celles et ceux qui vont fabriquer de la richesse sur place, mais également d'apporter un plus à la population et à l'environnement municipal ou intercommunal dans lequel la zone se trouve.
Samia, une réaction.
Alors, ma première réaction, c'est qu'effectivement, nous, on va dans le sens de tout ce qui va être développement économique sur notre territoire, mais avec, dans le sens de ce que vous évoquez, hein, qu'elle soit nouvelle génération et la nécessité de répondre à ce besoin. Notre priorité, elle est de répondre, dans un premier temps, aux besoins des entreprises qui sont déjà situées sur place et qui n'ont pas les lieux adaptés ou parce qu'elles se développent ou parce qu'elles grossissent, qui ont besoin d'autre chose. Et notre deuxième priorité, elle est de répondre à l'emploi des habitants de notre territoire et des territoires environnants de façon pérenne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a nécessité de réfléchir véritablement aux entreprises qui vont s'installer, que l'on va encourager à s'installer et que l'adéquation se fasse avec le public concerné sur nos territoires et potentiellement les besoins de formation. Et c'est essentiel. Donc, pour nous, c'est ça. Et alors, je voudrais revenir sur quelque chose sur notre territoire. Nous avions des entreprises comme Valouret. Nous avions le comptoir Lyon-Allemand.
Ah oui.
Nous avions des entreprises qui, de cet ordre, qui ont été dégagées. Enfin, pourquoi? Parce que c'est pas propre, c'est pas beau, c'est... ça crée des...
Elles ont quitté le territoire.
Ah ben ça y est, elles ont fermé, elles ont... Alors même que c'était un potentiel d'emploi, un bassin d'emploi phénoménal. Et aujourd'hui, finalement, on essaye de réinventer au goût du jour, hein, parce que c'est évident que c'est au goût du jour avec des technologies qui ont évolué, avec des besoins aussi, des besoins d'industrie ou de développement économique qui ont vu. On est en train de réinventer l'emploi dans la ville, en quelque sorte. Hein, parce que l'objet, c'est bien, à mon sens, à notre sens, c'est bien de ramener l'emploi, le développement économique au sein de la ville et de faire en sorte que les gens ne soient pas obligés de faire des kilomètres entre leur lieu d'habitation, leur lieu de formation et leur lieu d'activité, d'emploi.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Totalement. C'est intéressant ce que vous dites parce que, j'allais dire, il n'y a que quand on est élu local. Je caricature un peu, mais en même temps, je suis un peu journaliste, donc forcément, je force le trait. Mais ce que je veux dire, c'est que vous parlez de l'emploi, de la formation et du logement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas concevoir un territoire, la dynamique d'un territoire, sans un commerce de proximité, sans une éducation, sans des loisirs, sans la possibilité de faire société avec. Et l'emploi, c'est un peu l'artère fémorale de cette. C'est le sang qui irrigue, qui permet aussi la vitalité du commerce de proximité, qui permet au centre-ville de ne pas mourir et de se revitaliser. C'est une équation qui n'est pas facile à trouver, Gilles.
Vous savez, il y a 20 ans, on nous interdisait de faire ça. On nous obligeait à spécialiser les zones. Une zone commerciale d'un côté, une zone industrielle de l'autre côté, une zone d'habitat à l'opposé. Et vous obligiez les gens, et tous nos documents d'urbanisme ont été faits comme ça. Et on obligeait chacun à prendre sa voiture pour aller de son lieu de résidence à son lieu de travail, de son lieu de travail à son lieu de consommation. Et c'est comme ça qu'on a aussi un peu tué les centres-villes en trop spécialisant.
Exactement.
Et en n'ayant pas cette mixité des usages que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, on est en train de refaire, dans la redynamisation des cœurs de ville, on est en train de refaire l'inverse. Je prends l'exemple dans une zone piétonne. On avait un ancien supermarché qui a fermé, faute de clientèle. Et on vient de le retransformer en atelier de production de maroquinerie de luxe, hein, pour les grands noms français. Et donc, on a ramené 80, même maintenant, ils sont un peu plus de 100, là, ils viennent de dépasser la centaine de salariés. Vraiment, c'est en cœur de ville, dans un ancien supermarché, qui est un bâtiment totalement adapté à la production de maroquinerie. Et qui ramène de l'habitat dans le centre-ville et on revient à des usages.
Mais parce que vous faites la démonstration que c'est possible.
Ah, mais ça marche très bien. Et
qu'une ville n'est pas condamnée parce qu'elle a un passé, etc. Je prends le cas de votre ville qui était une ville garnison, vous savez.
Ouais,
et qui, du jour au lendemain, voit partir des milliers de personnes.
Mille militaires, plus les familles.
Et qui projette de façon assez rapide.
Il y a 50 ans, c'était il y a 10 ans, en 2012.
Oui, Et des commerçants qui se retrouvent du jour au lendemain avec zéro client, quoi. Je veux dire, donc c'est. Donc ça veut dire qu'en fait, la dynamique du territoire, elle doit nécessairement s'accompagner à la fois d'une certaine forme d'innovation et de recherche constante de cette attractivité. C'est ce que vous faites pour attirer les investisseurs, pour attirer les entreprises qui nécessairement développeront des offres avec de l'emploi et du logement.
Exactement. Et si on veut être écologiquement vertueux, il faut éviter ces déplacements qu'on a contraints et qu'on a démultipliés. Il y a l'étalement urbain qui nous a amené à ça, mais il y a aussi la trop spécialisation des zones. Et on a même, du coup, rendu la population quelquefois réfractaire au monde économique à force de plus l'habituer à avoir de l'entreprise et de la production. Ouais, on a encore de la chance dans nos villes moyennes d'avoir une culture de l'industrie. On voit bien dans les grandes métropoles et tout ça, dès que vous voulez installer un atelier logistique, une production, on n'en veut plus. On n'en veut plus.
Très bien. Vous voulez réagir ?
Oui, tout à fait. Sur Noisy-le-Sec, nous avons entamé il y a à peu près 2 ans et demi l'implantation d'une zone d'activité, le travail autour d'une zone d'activité sur un ancien site Epner avec un opérateur que vous connaissez sans doute qui s'appelle Goodman. Et ce travail a été réalisé, mais depuis le début, avec des modifications que nous avons apportées pour répondre aux exigences, notamment climatiques, hein, et donc au type d'entreprise qui allait s'installer. Et vous avez raison, parce que du coup, comme ça s'installait presque en cœur de ville, ça a généré des réactions extrêmement surprenante, alors même qu'on est dans de la création d'emplois, on est dans l'ouverture et le fait de pouvoir ramener des entreprises. Il y a eu un tollé, il y a eu des associations contre, on a continué à travailler.
Non.
Ah bah oui, si, forcément. Mais parce que, c'est ce que vous disiez, on l'a tellement sorti, on a tellement consacré la ville au logement, hein, que bah, finalement qu'il y ait du développement économique et que l'on pense à attirer un certain nombre d'industries ou d'entreprises, ça devient... Nous, j'ai quelqu'un qui me dit souvent, nous ne sommes plus un territoire servant. Effectivement, longtemps, nos territoires ont été considérés comme des territoires servants. Nous voulons contribuer au niveau de la métropole, mais aussi au niveau local ou local, à produire justement de l'installation d'entreprises, de la création d'entreprises, de la zone d'activité, avec, je le redis, notre priorité fondamentale, c'est de redonner de l'emploi, de provoquer l'emploi pour nos habitants qui sont, on le sait, quelquefois très éloignés de l'emploi et de la qualification. Donc c'est extrêmement important. Mais effectivement, je réagissais parce que c'est tellement flagrant que dès que vous revenez avec un projet comme ça... Voilà.
Ouais, je me dis qu'il y a quand même des gens qui font des études pour essayer de faire des... qu'il y a quelque chose qui est un retour au bon sens.
Ah ben complètement.
Puisque les cœurs de ville, finalement, si on réfléchit bien dans l'histoire de notre pays, étaient des lieux dans lesquels il y avait toujours cette proximité entre l'emploi... Et le logement, d'ailleurs, on vivait souvent là où on travaillait. C'est un peu un accident de l'histoire d'aller dans les grandes villes, les territoires ruraux, avec la révolution industrielle. Il y avait cette proximité. Est-ce qu'on ne revient pas, finalement, à une espèce de bon sens, Jean-Luc, sur une vision peut-être nouvelle, qui n'est pas si nouvelle que ça, peut-être, avec une redécouverte de la beauté de nos centres-villes, qu'on redécouvre avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et on le voit, alors bon, je ne vais pas prendre Paris parce que c'est un peu caricatural, mais on voit qu'il y a une revitalisation des cœurs de ville aujourd'hui dans lesquels, bien évidemment, il y a aussi une flambée des prix qui fait que un renouveau urbain, est-ce qu'on n'est pas sur une tendance qui finalement revient à cette fameuse place du village, qui est cette nouvelle agora de la ville qui fait se concentrer l'emploi, l'habit, le loisir, la mobilité et tous ces sujets.
Je ne sais pas si on revient à ça, parce que j'ai l'habitude de dire...
On a presque
l'impression qu'il y a une volonté politique forte de la plupart des élus de reconquérir leur centre-ville. Après, la volonté politique, elle s'accompagne...
Ça date de quand, ce mouvement qui vise à reconquérir le centre-ville?
Alors, je me tourne vers les élus, mais je pense que c'est une dizaine d'années. Ouais. Grosso modo, c'est une dizaine d'années. Quand, ça a été 2017. Vidé...
C'est Jacques Mézard. C'est Jacques Mézard qui annonce le plan d'action cœur de ville.
La question qui est posée, c'est qu'il y a la volonté politique et il y a les moyens mis en œuvre pour mettre en œuvre, c'est le cas de le dire, la volonté politique. Très souvent, la reconquête du cœur de ville chez des opérateurs privés comme Nexity, on pose la question, comme toujours, de l'équilibre économique de cette restructuration. Bon. Alors, les choses... avance parfois. Aujourd'hui, la régénération urbaine, elle permet ça en transformant des bâtis historiques dans la plupart des centres-villes, en le transformant en résidentiel quand c'était un magasin. J'ai en tête des projets sur lesquels nous sommes à Cherbourg, par exemple. Donc les choses se font, mais je crois que c'est peut-être parfois un peu plus long parce que l'équilibre économique est parfois un peu plus dur. Je pense qu'on assiste, tout à l'heure, monsieur le maire disait sur l'attractivité par rapport aux salariés. Alors, je souriais en vous écoutant, parce que c'est vrai même pour les grands groupes, c'est-à-dire le numéro un de l'immobilier, pour attirer des jeunes pousses, il faut être présent, exigeant sur les sujets environnementaux, sur les sujets de cadre de vie au travail, de fonctionnement du travail, des services sur le lieu de travail. Et on a les mêmes problématiques, on se prend un gros, si je dis, c'est pas un énorme, c'est le numéro un français de l'immobilier, on a les mêmes problématiques pour attirer des talents, tout simplement. Et parfois, c'est l'exigence de l'environnement, du positionnement sur les questions environnementales est presque aussi important que les questions de rémunération. Ça, c'est quand même très nouveau. J'ai des entretiens où des jeunes disent télétravail, c'est combien de fois ? L'engagement de Nexity sur les sujets environnementaux, sur les modes constructifs, c'est quoi ? Et on a des entretiens parfois d'embauche qui sont assez nouveaux, on va dire.
Oui, oui. Au-delà de... Moi, je dirais un peu surréaliste, mais nouveau.
C'est comme ça. Après, je pense que les sujets sont différents quand on est dans une grande métropole. D'accord. Ou quand on est dans une ville moyenne ou grosse agglomération de région, parce que le levier d'attractivité ne fonctionne pas de la même manière. Ce que je voulais rajouter par rapport
à ce pays... C'est pas le prisme parisien, ça ? Non,
non, je crois pas.
Est-ce qu'on a les mêmes réalités quand on vit à Châteauroux, qu'on cherche du boulot?
On a des réalités en termes de qualité de vie, je pense, qui peuvent être à peu près identiques, même si on ne les développe pas de la même manière, mais on a des qualités, des exigences ou des attentions sur les services, en particulier sur les services aux enfants, de petite enfance, de périscolaire, de scolaire et de culture. Je crois que c'est très important dans la dynamique territoriale, on va dire l'attractivité culturelle, même si on a les uns et les autres des moyens d'accéder à une forme de culture juste avec un téléphone ou une tablette. Néanmoins, l'offre culturelle dans une ville, c'est important. Je rajoute un élément, vous le disiez aussi, monsieur le maire, c'est la question de la mobilité. C'est-à-dire, là où il y a eu des investissements de grosses infrastructures, je pense au TGV ou en Île-de-France, on parlait en aparté avant de démarrer sur les prolongations de lignes de métro, bah, ça change l'attractivité. Parce que la mobilité est essentielle quand on veut rester attractif et quand on veut atteindre cette évolution vers du multi-usage. La ville du quart d'heure est réservée à certains endroits du territoire dans des grandes agglomérations. Châteauroux, la ville du quart d'heure, c'est plutôt la ville de la demi-heure ou du trois quarts d'heure. Donc, si on veut avoir les mêmes exigences, il y a besoin d'avoir, on va dire, des structures. Moi, je pense que c'est vraiment déterminant dans l'attractivité, des infrastructures de transport.
Voilà, 15 minutes, pour être plus clair.
Oui, pardon.
Voilà, non, je dis, voilà, on a un retard de 15 minutes exactement sur notre prochaine émission. Merci de regarder vos téléphones. Alors, justement, Samia, ça, c'est un vrai sujet. Parce que souvent, on a l'impression, dans le recrutement, on a quand même, dans certains secteurs, des vraies tensions sur l'emploi, et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Effectivement. Est-ce qu'on vit les mêmes... Et je vais poser d'ailleurs la question également à Gilles Averrousse pour le territoire de Châteauroux. Est-ce qu'on a les mêmes, aujourd'hui, les mêmes problématiques pour attirer ces jeunes, pour attirer cette génération sur l'emploi? Ou est-ce que finalement, on ne focalise pas trop peut-être sur des grandes agglomérations ou pour simplement un prisme un peu parisien et qu'il y a une autre réalité qui s'installe, notamment lorsqu'on est en banlieue, par exemple, banlieue parisienne, ou dans des territoires comme celui de Châteauroux? Votre avis?
Alors... Pour pouvoir en parler, il faudrait encore que nous ayons des emplois à proposer dans nos territoires.
Et il n'y en a pas.
Vous touchez vraiment. Non, mais il y en a, mais pas à l'échelle de ce que vous évoquez, notamment sur... Mais les sujets des jeunes tels que vous les évoquiez, de la recherche d'emploi et de l'installation dans un emploi, dans une ville, les problèmes restent... Enfin, les questions restent les mêmes. Les exigences restent absolument les mêmes. Et quand vous évoquiez le coût, vous avez raison, ce serait beaucoup plus simple de construire simplement du logement et c'est beaucoup moins cher pour les collectivités. En revanche, pour les collectivités, porter une politique publique du développement économique, de l'installation des entreprises. Vous voyez, par exemple, sur le territoire d'Est-Ensemble, nous travaillons sur un ancien site qui doit être un site de pile, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un site industriel qui a été abandonné et sur lequel nous avons développé ça s'appelle l'usine des transitions et qui profite de ces équipements qui sont vides et qui accueille un certain nombre d'artistes, d'artisans, d'industries, hein, c'est vraiment de l'artisanat d'art, des activités économiques qui les accueillent, mais c'est pris pour une grande part en charge par la collectivité.
Mais je comprends.
La collectivité accompagne aussi financièrement. Et du coup, moi, je m'interroge sur quelle est la part de l'État, sur la contribution qu'elle apporte au développement économique et au développement des zones d'activité dans les territoires comme les nôtres.
Dans l'absolu, vous aimeriez que ça devienne une activité économique rentable,
tout à fait,
qui permet de créer de l'emploi, d'occuper effectivement, de vitaliser la cœur de ville au lieu d'aller de Noisy à Paris pour faire ses courses dans tel ou tel sujet, parce qu'il n'y a pas l'offre sur place, ou tout simplement, ou des Parisiens qui choisiront Noisy parce que c'est plus moins cher de se loger à Noisy, ou comme certains qui préfèrent aller à Fontenay-sous-Bois plutôt que Vincennes parce que c'est un coût moins cher. Ça a été mon cas, hein. Je vous le dis, j'ai acheté ma maison à Fontenay-sous-Bois parce que je n'avais pas les moyens d'aller à Vincennes, tout simplement. Donc c'est intéressant parce que on voit bien qu'il y a un prosaïsme finalement très développé dans cette vision. Gilles Averrousse, votre avis sur cette question, qui à mon avis est cruciale, hein, sur le rapport entre l'emploi, le logement et la vitalité des cœurs de ville.
Il est aussi essentiel sur les territoires comme les nôtres, donc on parle de villes de centralité, les villes moyennes, mais également en ruralité. Pourquoi ? Parce qu'on est sur les zones moins denses, évidemment, que dans les grandes métropoles, mais qui dit moins dense, dit moins de transports en commun. Tout simplement, effectivement, on en revient au sujet de la mobilité. Et plus vous avez de distance à faire entre votre lieu d'habitation et l'entreprise, plus vous serez amené à prendre votre véhicule individuel, donc la voiture ou un scooter si vous êtes proche. Mais nous, dans notre territoire, c'est plutôt la voiture. Et plus vous êtes loin, plus ça vous coûte. Donc, il y a un vrai sujet en termes d'attractivité, de recrutement pour nos entreprises qui disent « mais moi, mon sujet, c'est d'arriver à loger, pas loin de chez moi, ceux que je veux attirer qui ne sont pas originaires d'ici ». Et c'est souvent sur des professions intermédiaires ou supérieures une réalité, une nécessité. Donc on a aujourd'hui des entreprises qui sont en train de, pour certaines, je pense une entreprise de métallerie qui est en zone rurale, qui achètent des maisons pour en faire des logements pour ses salariés. Ah. Et on revient à ce qu'on a vécu généralement au moment de la révolution industrielle. Oui. On parlait de paternalisme et de ces maisons, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose.
Oui. Dans le Valenciennois, c'était le cas, dans le bassin minier, c'était le cas.
Et ça a fait patrimoine qui a créé l'âme de nos villes. On a tous du patrimoine de logements ouvriers, des petites maisons, mais très fonctionnelles et très pratiques. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir réouvrir un peu ce dossier-là. On avait créé un office, un établissement, je pense, au 1% logement, devenu Action Logement, pour financer ce genre d'opération. Je crois qu'aujourd'hui, il faut remettre ça sur la table.
Je crois que cette question-là du logement...
Extrêmement intéressant.
La question du logement lié à l'activité, elle se voit ou elle va se voir avec, prédominance, là, avec le réinvestissement par la puissance publique et par l'État sur des sites de réindustrialisation. J'ai en tête Dunkerque, j'ai en tête Penly, j'ai en tête Roubaix, mais là, il y a une zone urbaine assez grande. J'ai en tête Béziers, où les dispositifs de réindustrialisation et donc l'arrivée en particulier de Gigafactory, il y a un besoin de logement, et on revient à ce que vous dites, c'est-à-dire que l'activité économique, quand elle se réinstalle, forcément, mécaniquement, il y a besoin de logements pour loger les compagnons, loger qui vont construire, et loger les ingénieurs, les artisans qui vont se développer. Et je reboucle avec notre thématique. Je crois qu'il faut être très attentif à ces zones d'activité nouvelle génération autour des sites de réindustrialisation.
Exactement,
parce que
l'artisanat
va forcément s'établir
autour.
Je pense au territoire de Dieppe, je ne disais pas en ligne, mais faire tourner deux nouvelles générations de PR, ça sera EDF. Mais autour de ça, il y a multitude d'artisans qui vont devoir travailler, intervenir pendant la phase de chantier, même s'il y a une entreprise générale importante qui a gagné, on va dire, la construction. Mais derrière, sur le fonctionnement, il y a une multitude. Et on voit bien comment, c'est sur ce que, sur quoi je voudrais conclure, c'est que sur les questions de dynamique économique, on voit bien que les élus sont locomotives. C'est quand même de la responsabilité des élus qui se battent pour aller chercher de l'attractivité économique, mais que ça renvoie assez vite à, on va dire, la mise en cohérence d'autres partenaires de la puissance publique, bien sûr l'État, mais aussi l'échelon régional qui est normalement dans ses compétences chargé du DEVECO.
Samia, sans faire de la méthode Coué, moi je me dis qu'on a un formidable potentiel, quoi. Que les solutions sont là, qu'on a les éléments et que limite, on demanderait à l'État de ne pas trop mettre de fond et qu'on pourrait même, avec un peu de dynamique entrepreneuriale, redonner vie à ces territoires en disant tout simplement ce qu'on demanderait finalement à l'État, c'est d'être moins jacobin, moins intrusif peut-être et de nous laisser agir. C'est le sentiment que j'ai comme ça, brûle pour point, en rencontrant les élus, mais je le savais déjà parce que je rencontre très souvent les élus. Je disais qu'il y avait un effet pendulaire, donc c'est peut-être pas le bon mot, mais est-ce qu'il n'y a pas un retour, je dis la Bérousse, à une espèce de bon sens dans lequel on se dit, mais finalement, c'est pas bête de pouvoir étudier à côté de chez soi, de travailler pas trop loin, parce que c'est, pour la santé, c'est faire 2 heures de transport aller, 2 heures de transport retour, c'est quand même une sacrée galère. Je peux vous dire que quand on travaille à Noisy-le-Sec et qu'on va travailler, par exemple, à Voisins-le-Bretonneux. Tiens, je prenais le cas avec la maire de Voisins-le-Bretonneux. C'est quand même pas simple de faire ça. Et quelle est la... Vous qui avez été aux affaires, vous qui êtes aujourd'hui à la tête de l'association Île-de-France, qui regroupe plus de 200 adhérents aujourd'hui, qui êtes un maire ancré dans votre territoire, pourquoi, dans cet état, cet exécutif, on n'arrive pas à trouver cette feuille de route qui nous permettrait d'avoir une meilleure planification, de plus écouter des élus locaux comme Samia, par exemple, qui ont le bon sens chevillé au corps. Ça paraît quand même... Vous savez, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Ils disent, mais ils sont bons, ces gars-là. C'est super bien ce qu'ils disent. C'est vrai. D'un point de vue communicant, c'est...
Mais pourquoi ? Parce que en fait, l'État n'a même pas fait, ne fait plus depuis longtemps confiance à ses représentants sur le territoire. Je ne parle pas des élus, puisqu'on n'est pas forcément les représentants, mais je parle aux préfets, des préfets. Les préfets de département, au fil du temps, leur ont enlevé tout leur pouvoir au profit quelquefois de préfets de région, et j'allais dire même souvent d'agences régionales ou de directions régionales qui sont super puissantes. Si on donnait un vrai pouvoir de dérogation aux préfets, Moi, nous, on croit beaucoup au
préfet.
Couple
au préfet.
Maire-préfet et maire-sous-préfet. On prend l'exemple des Gigafactory, par exemple. Aujourd'hui, il y a une règle qui dit quand vous faites une zone d'activité, ça doit être à vocation industrielle, donc pas d'habitation. C'est interdit. Bah, qu'est-ce qui est interdit de construire une habitation à côté d'une Gigafactory ? C'est pas un truc qui va exploser, qui met en danger les gens qui vont habiter là. Et donc, il faut qu'au cas par cas, en fonction de la situation du territoire et tout ça, on puisse dire, eh ben là, effectivement, il y a besoin de 30 000 logements parce qu'il va y avoir sur le territoire de Dunkerque, on est à peu près dans ces données-là, en termes de création d'emplois, eh bien, il faut qu'on puisse créer des zones de logement au plus près des entreprises.
Dans un temps très court.
Et dans un temps très court. Et donc, et ça, il faut une dérogation. Mais on ne demande même pas de nous donner ce pouvoir-là. On dirait
on a été capable
que le représentant du gouvernement sur le territoire puisse l'avoir. Lui,
les Jeux Olympiques, on a été capable de le faire.
Mais oui, mais pour les JO.
Quand on veut, hein. Non, mais c'est intéressant. Je prends un exemple.
La Gigafactory... on s'est donné des objectifs en termes de date de livraison d'opération. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse ça sur logement, fausse d'air.
Bien sûr.
Voilà, telle opération, elle est déclarée d'intérêt public pour le territoire. Et bien, on sera livré tel jour et on fait toutes nos procédures avant, en rétro-procédure. En
Non, mais justement, c'est intéressant. Je vais vous citer un cas. C'est l'EPA de Sénart, le parc de Villaroche. Vous connaissez le parc de Villaroche, il y a une immense reconversion industrielle. Il y avait un projet dans lequel a concouru effectivement cette zone d'activité qui est aujourd'hui, je crois, la plus grosse éolienne, me semble-t-il, au niveau national. Hein. Tu me diras, je pense que c'est la plus grosse, une des plus grosses. Opération d'intérêt national. On a perdu Tesla avec la Gigafactory qui est allée à Berlin, d'aller en Allemagne. Bon. Et la question, c'est très intéressant d'observer le dossier. C'était un vrai enjeu hein, pour le territoire. La question du logement, Gilles.
Oui.
La question du logement a été cruciale, du début à la fin. On n'a pas parlé de techno, on n'a pas parlé de raccordement ou des fluides, les problématiques de fluides pour alimenter ces gigafactories qui, quand même, sont un vrai sujet. Oui. Eh bien non, on a parlé du logement sur lequel un des critères, je me rappellerai toujours l'avoir lu, qui était que la France était caractérisée par un temps trop long pour la mise en œuvre en fait, de création de logements et que les Allemands avaient un taux de rotation qui était beaucoup plus rapide et de création beaucoup plus rapide. Point.
L'opération de logement, on ne sait pas la faire en moins de 5 ans aujourd'hui. Deux ans entre
alors,
la signature alors, de l'acte
d'acquisition. Vous êtes d'accord qu'on peut la faire je suis d'accord, Jean-Luc, qu'on peut la faire
en 2 ans. La logique vaudrait, enfin ça dépend, si on parle du diffus ou d'une grosse opération
d'aménagement. Okay.
Une opération traditionnelle dans le diffus, la logique de procédure, on devrait être autour de 24 mois. Aujourd'hui, on n'est jamais autour de 24 mois. Au minimum, c'est 36, quelle que soit la taille de l'opération. Non.
Et les maires ne sont pas toujours responsables de cela. Hein. Il faut quand même le rappeler, parce que le raccourci, parfois, est un peu facile.
L'addition des normes et des réglementations, c'est le temps complexe avec les élus, c'est l'attribution du permis. Mais l'addition, on va dire, des réglementations diverses et variées, l'intervention des uns et des autres services de l'État... qui dépendent soit du préfet de région et qui ne se parlent pas entre eux, ce ne sont pas les maires.
Hein. C'est une vraie différence avec nos pays concurrents, hein, et on l'a vu. C'est pour ça qu'on est arrivé au site clé en main où on s'engage à avoir des procédures accélérées en 9 mois en ayant anticipé une partie des procédures. Sinon, on ne sait pas faire en moins de 18 mois des procédures administratives.
Mais c'est très clair. Mmh. Alors, on pourrait passer encore beaucoup de temps à parler du sujet, mais c'est toujours aussi passionnant. Mais il faut bien se quitter. D'ailleurs, nous avons dans quelques instants le vice-président de la région Île-de-France qui est également maire de Mency et il gère aujourd'hui, il est président de Grand Paris Aménagement, hein, vous connaissez, c'est Jean-Philippe Dugoin-Clément qui va nous rejoindre dans quelques instants. Il est également président de l'établissement public foncier d'Île-de-France. Hein, c'est quelqu'un qui maîtrise particulièrement le logement.
C'est quelqu'un de très important.
Voilà, absolument. Et c'est quelqu'un qui a une vraie maîtrise du dossier. En tout cas, il va arriver dans quelques instants. Merci, Samia Sewan. C'était un vrai, vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous êtes maire adjointe en charge de l'aménagement à Noisy-le-Sec, administrative de la SAEM de Noisy-le-Sec Habitat. À vous écouter, je n'ai qu'une envie de me dire, c'est pop. Ça peut être très sympa d'aller vivre à Noisy-le-Sec. En tout cas, j'avais un de mes oncles qui était kinésithérapeute et qui vivait à Noisy-le-Sec.
Connu.
Qui aujourd'hui est malheureusement décédé. Son nom, c'était Ben Assouli. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. C'était un kiné qui m'a souvent bien redressé.
Je vais juste vous demander, je ne sais pas si vous avez rappelé que j'étais vice-présidente à Est Ensemble.
Non, je ne l'ai pas rappelé. Merci. Mais vous êtes vice-présidente à Est Ensemble.
Parce que le cœur de nos réflexions...
de votre avis, bien sûr.
Le développement économique et les zones d'activité, c'est essentiellement ce que nous portons au niveau de l'intercommunalité.
Et d'ailleurs, Est Ensemble, une formidable initiative pour valoriser, encore une fois, je le redis parce que souvent on le redit, l'Est parisien qui parfois est un peu la variable d'ajustement dans certains types de visions politiques. Et d'ailleurs, je poserai certainement la question à Jean-Philippe Dugon-Clément. Merci Samia d'être venu sur le plateau. Un immense merci à Gilles Averrousse d'être venu sur le plateau, ancien ministre des Sports, maire de Châteauroux, président de Ville de France. On vous revoit bientôt. D'ailleurs, normalement, on a un beau projet d'aller avec des, comme un saltimbanque. On a promis de mettre la lumière sur ceux qui ne sont pas visibles et qui ne sont pas audibles. C'est les villes de France et d'aller de ville en ville. Oui, nous irons. Et on viendra vous voir également.
Avec plaisir.
Un immense merci également
merci.
À notre éditorialiste préféré, directeur de la rédaction d'Envie de Ville, président de Next City Transformation et Territoire. C'est Jean-Louis Porcédo. Merci de nous avoir laissé la possibilité de le faire.
Merci à toi.
Voilà, merci
à vous.
Et on se retrouve dans quelques instants.
MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Next City sur Radio Immo.